Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment.
Bonjour à toutes et à tous. Après avoir examiné la question de Roswell avec Gildas Bourdet la semaine dernière, les témoins de l'invisible nous ramènent aujourd'hui en France pour évoquer l'histoire de la recherche ufologique dans notre pays. Notre invité est historien, il s'appelle Manuel Virotte. Il vient de publier aux éditions Le Temps Présent un ouvrage intitulé OVNI sur la France, des années 1940 à nos jours. En fait, Manuel Virotte, ce livre n'est autre que votre thèse de doctorat d'histoire. Alors, première question, comment diable l'idée vous est-elle venue de consacrer votre thèse de doctorat à la recherche ufologique? C'était, me semble-t-il, prendre un grand risque, hein, compte tenu de l'aspect sulfureux du sujet, en tout cas en France.
Oui. Alors, en fait, j'habitais à ce moment-là à La Réunion, on était autour de 2009-2010, et donc je cherchais un sujet de thèse, parce que j'avais passé un DEA quelques années auparavant, je cherchais un sujet de thèse qui m'intéresse, qui me passionne, et je ne trouvais absolument rien. Et donc, comme les ovnis, l'ufologie m'intéressait déjà depuis quelques années, je me suis dit, et que ça pouvait faire un sujet national, hein, parce que l'avantage, il faut absolument chercher des sujets nationaux pour faire une bonne thèse. Donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans cette aventure. Et effectivement, dans un premier temps, je ne pensais pas trouver quelqu'un assez facilement. Et à ma grande surprise, en fait, j'ai contacté un premier directeur potentiel qui n'était pas intéressé par le sujet, mais ça ne rebutait pas. Et le deuxième, Éric Baraté, donc à Lyon, spécialiste de l'histoire des animaux, lui a tout de suite été emballé et on s'est lancé dans l'aventure.
Vous y intéressez, vous, depuis votre jeune âge, à cette question des ovnis?
Alors, aussi loin que je me souvienne, j'ai l'impression que d'être intéressé ponctuellement à l'adolescence. En fait, mes parents, d'après ce qu'ils m'ont dit, donc, ont par un moment eu des cartes d'enquêteurs lumière dans la nuit, donc ça devait être dans les années 1970, et ils avaient quelques revues, donc oui, j'avais déjà feuilleté ce genre de choses, j'avais déjà dû lire un livre de Jean-Claude Bourret. Mais voilà, mais après l'intérêt s'est relancé vers, on va dire, vers 18 ans, par là. Et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Je me suis réabonné à Lumière dans la nuit et je me suis lancé dans l'aventure à la fin des années 2010.
Pour l'anecdote, il me semble, justement, vous parlez de Jean-Claude Bourret, avoir pris connaissance d'un cas à La Réunion sous la plume de Jean-Claude Bourret, qui était un cas tout à fait extraordinaire, je crois, dans la plaine des Cafres ou quelque chose comme ça, peut-être
c'est ça.
Oui.
Précisément, donc en 1900, si ma mémoire est bonne, hein, en 1968, je crois qu'on est le 31 juillet, donc c'est un homme qui s'appelle Luce Fontaine, à la plaine des Cafres. Donc il est, c'est la plaine des Cafres, c'est un peu en altitude, on est vers 1200 mètres d'altitude, et vers le volcan. Et là, il est dans son champ, il récolte de l'herbe pour ses lapins, précisément du mimosa. Et il observe une espèce d'objet que, à ma connaissance, on n'a jamais observé, hein, dans les annales de l'ufologie, n'a jamais été observé, comme une assiette surmontée de deux pieds, inversée, hein, l'un au-dessus, l'un en dessous, qui est assez grand, hein, qui fait plusieurs mètres de diamètre, avec à l'intérieur ce qu'il a appelé deux babas Michelin, donc deux petits bonshommes Michelin en scaphandre. Et donc là, un immense éclair bleu jaillit, l'objet disparaît de sa vue, et Luce Fontaine, terrifié, va voir sa femme, va ensuite, qui lui conseille d'aller à la gendarmerie, donc il va à la gendarmerie de la plaine des Cafres, il raconte son aventure, et c'est très très intéressant, hein, dans cette histoire, c'est que en fait, les gendarmes, un peu plus tard, hein, les gendarmes enquêtent pendant au moins 2 semaines, hein, ils sont au moins une dizaine à enquêter, donc ils prennent très au sérieux l'affaire. Et ils reviennent avec un compteur GGR, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais là, il en avait un. Et c'est extraordinaire, il y a de la radioactivité au sol, bien supérieure à la moyenne. Il y a de la radioactivité sur la face antérieure de ses vêtements. Et donc, on a manifestement un effet mécanique qui a eu lieu, et donc ce qui rend le cas particulièrement intéressant.
Tout à fait. Alors, votre livre, lui, n'est pas, on va dire, consacré aux ovnis à proprement parler. Enfin, on en parle bien sûr tout de même, mais c'est plutôt la façon dont leur problématique a été prise en compte depuis 1941 dans notre pays qui est au cœur de votre livre. Hein. C'est cela.
Oui, alors en fait, moi, mon livre, plus précisément, donc il développe quelques cas, mais il s'attache surtout à étudier ceux qui ont étudié ces cas, qui ont cherché des méthodes pour les approcher au plus près, pour obtenir des résultats. Et donc, ça commence effectivement à la fin des années 1940, en France. Hein, aux États-Unis, ça commence un petit peu plus tôt. En France, dès la fin des années 40, il y a un groupe de recherche qui se monte à Grenoble. Les premiers ufologues individuels, enfin, ils sont pas encore ufologues, ils se disent plutôt soucoupistes. À l'époque, le terme est un peu différent. Donc, les premiers soucoupistes commencent à récolter des articles, à aller sur le terrain. Et les premiers groupements apparaissent au début des années 50. Voilà. Et donc, moi, ce que je cherche à démontrer dans ma thèse, en fait, c'est que, loin d'être un hobby passager, on a presque un fonctionnement de type scientifique qui se met en place avec la constitution de véritables réseaux au fur et à mesure des décennies, qui collaborent entre eux, qui font des publications, qui partent sur le terrain, qui réfléchissent sur leur méthode, qui en discutent et qui publient leurs résultats. Donc c'est ce que j'essaie de montrer dans ma thèse. Mmh.
Alors la première partie de votre livre est intitulée « L'ufologue et la construction des représentations OVNI ». Elle nous ramène au commencement de cette aventure qui a eu ses pionniers, vous venez de le dire. Je voudrais que vous nous rappeliez qui étaient ces pionniers, les premières grandes figures à se dégager.
Alors, on en a plusieurs, on en a des connus, on en a des méconnus. Donc les plus connus, évidemment, c'est Aimé Michel, c'est Henri Chaloupec, c'est Jimmy Lieu, c'est même Jacques Vallée, hein, qui est un petit peu un pionnier secondaire, c'est Guy Tarade. Et il y en a d'autres moins connus, comme Jean-Lain Tapie. Donc par exemple, pour Aimé Michel, Jean-Lain Tapie, c'est un illustrateur pour la revue Force Aérienne Française. C'est l'un des premiers, enfin d'après lui, c'est même le premier à avoir constitué un énorme dossier sur les ovnis, à avoir mené des enquêtes. Je crois qu'il enquête à Marignane sur un cas qui a eu à Marignane. Et on a aussi, par exemple, des ufologues moins connus mais très actifs comme Guy Quincy. Guy Quincy, donc lui, il a résidé à Oran en Algérie. Il était archiviste. Et Guy Quincy, d'après Jacques Vallée, parce qu'on a, c'est souvent des sources secondaires, hein, qui nous renseignent sur ces pionniers. D'après Jacques Vallée, c'est le premier à avoir établi une classification des cas d'observation. Et toutes les classifications, donc celles de Hynek, Joseph Allen Hynek, l'américain, ou de Jacques Vallée, descendraient de cette première classification de Guy Quincy, qui n'a pas connu, si vous voulez, qui n'a pas été très connu comme les autres que j'ai cités un peu plus tôt, là.
Oui. Alors, plusieurs de ces premiers chercheurs, notamment Aimé Michel, mais aussi Jacques Vallée, ont plus ou moins confié que, finalement, ce n'était pas par hasard qu'ils s'intéressaient aux ovnis. C'est comme s'ils y avaient été conduits par quelque chose, peut-être en eux. Est-ce qu'il y a comme ça des caractéristiques propres à ces pionniers de l'ufologie? Des caractéristiques psychologiques ou autres?
Alors j'essaie de le montrer dans ma thèse, et à ma grande surprise, hein, quand j'ai découvert, un grand nombre de ces pionniers ont observé quelque chose, et ce qui a souvent déclenché ou catalysé leur intérêt. Donc très souvent, j'ai plus les proportions en tête, mais presque un sur deux a observé une soucoupe volante ou une manifestation de ce type. Et très souvent, donc, ça a déclenché son intérêt et il s'est lancé, à corps perdu ou non, dans l'étude du phénomène. Très souvent également, il a eu connaissance parmi les pionniers. Je ne parle pas des ufologues de la seconde génération. Très souvent, il a pu y avoir accès par des articles de journaux, mais une observation a relancé son intérêt. Donc ça, c'est par exemple Henri Chaloupec. Henri Chaloupec qui s'intéresse aux observations américaines quand il est à Prague en 1947, donc il collecte des articles. Et je crois par deux fois, par la suite, il va observer quelque chose et il en fait part dans son opuscule des souvenirs d'un soucoupiste.
Alors, c'est le début de la guerre froide, cette époque. Est-ce que ça a éveillé la curiosité, je ne sais pas, de la défense en France ou des services secrets? Est-ce qu'on s'est dit, oulala, les Russes vont nous tomber dessus?
Alors, le lien avec la guerre froide, au départ, effectivement, les deux camps, les deux blocs s'interrogent, hein, de savoir si ce ne sont pas des manifestations, des essais de machines nouvelles de la part du camp adverse. On a notamment ça donc déjà en 1945, donc on n'est pas dans la guerre froide encore, mais déjà les Américains s'interrogent, enfin les Alliés s'interrogent, savoir si ce ne sont pas des armes secrètes nazies avec les Foo Fighters. Je me rappelle qu'à l'époque, à partir de la deuxième moitié de la Seconde Guerre mondiale, on commence à observer ce qu'on appelle les Foo Fighters, c'est-à-dire les boules lumineuses qui vont, qui viennent. On en a quelques photos d'époque. Hein. Et on observe aussi des disques, hein, des disques volants. Hein, c'est les premiers disques qui sont observés. Ça, c'est dans la base de données Weinstein, Dominique Weinstein, hein, base de données de rencontres aériennes, qui fait mention de ces disques volants. Et donc, un peu plus tard, donc en 1946, au-dessus de la Scandinavie, au-dessus de toute l'Europe de l'Ouest, on a ce qu'on appelle la vague des fusées fantômes. Et là, donc ce sont comme des torpilles, comme des missiles, qui changent de direction, qu'on observe à un point, puis qu'on observe à d'autres points beaucoup plus éloignés. Et donc là, les Alliés se sont demandé si, en fait, les Soviétiques, qui avaient pris la base de Peenemünde en Allemagne, sur la Baltique, n'avaient pas, découvert des technologies nazies, n'essayaient pas des technologies nazies, de missiles, en fait. Mais le problème, c'est que donc les missiles qui seraient partis de la base de Peenemünde seraient allés jusqu'au Maroc. Et donc là, on aurait 3000 km de distance, ce qui ne correspond absolument pas aux performances aéronautiques des V1, V2. Il y avait aussi des changements de direction. Et durant la guerre froide, rapidement, on s'est interrogé aussi, les états-majors des deux blocs sont interrogés sur la possibilité d'armes secrètes, mais très vite, hein, ils en sont arrivés à la conclusion que ce n'était ni soviétique ni américain. Hein, c'est le général, par exemple, Nathan Twining, qui le dit en 1947 dans un mémo, ce ne sont pas des engins terrestres, en tout cas, ce ne sont pas des engins ni soviétiques ni américains qu'on observe actuellement. Ouais. Donc très vite, ils en sont venus à la conclusion que ce n'étaient pas des armes secrètes.
Secrètes. Alors, nous avons tous en France la mémoire courte. Plus personne, à part ceux qui s'intéressent à la question, ne se souvient de ce qui s'est produit un peu partout en septembre et octobre 1954, à savoir une pluie de témoignages évoquant l'atterrissage d'objets étranges d'où sortaient de bien curieux personnages. Rappelez-nous, Manuel Virotte, ce que fut ce qu'on appelait la vague de 1954, très impressionnante.
Oui, alors la vague de 1954, effectivement, elle a tendance à tomber dans l'oubli, et ça, beaucoup d'ufologues le déplorent, notamment Joël Ménard, quand il était directeur de Lumière dans la nuit. Je rappelle qu'il ne l'est plus depuis 2014. Il déplorait ça. Cette vague, en fait, elle commence à la fin de l'été. À la fin de l'été 1954, en France, en Italie du Nord, en Belgique, pour l'essentiel, hein, on a beaucoup de cas dans ces trois pays. Elle est monumentale, elle est absolument monumentale. Donc, Michel l'a décrit aussi dans son livre Mystérieux objets célestes. Et donc, effectivement, on a des observations très étranges. Mais jusqu'à Madagascar, hein, puisque je fais juste une petite parenthèse, le 16 août 1954, donc est-ce en lien avec cette vague ou non, je n'en sais rien, on a une observation extraordinaire au-dessus de Tananarive, hein, puisqu'on a une sorte de ballon de rugby métallique vers 18h qui est observé par des milliers de témoins. Hein, les gens sortent des bureaux à ce moment-là, l'obscurité commence à tomber. Et donc là, on a une observation extraordinaire parce que d'une part, elle est observée par des milliers de témoins, au minimum. D'autre part, elle crée des effets sur les animaux. Les zébus sont terrifiés et il y a des parcs à zébus un peu partout autour de la ville. Et les animaux sont terrifiés, courent dans tous les sens. Et aussi sur les lumières de la ville qui s'éteignent progressivement au passage du phénomène. Donc ça, c'est une des manifestations qui est peut-être ou non en lien avec la vague de 1954. Et donc en 1954, sur la France essentiellement, on a des observations qui peuvent se compter par dizaines, hein, certains jours. Certains jours, notamment au début du mois d'octobre, on a les journaux régionaux font mention de dizaines d'observations, et parmi les plus étranges, hein, qu'on ait jamais observées jusqu'à ce jour. Donc on a des atterrissages, on a des humanoïdes qui descendent, qui sont observés de près, qui font différentes choses, même qui s'adressent des fois aux témoins, qui repassent, qui réparent leurs machines, même après Manon, je ne sais plus la date exacte, mais toujours en 1954, des enfants observent quelque chose, donc des formes rectangulaires qui se déplacent, ils jettent des cailloux dessus, ça résonne de manière métallique, voilà. Donc on a là, à ce moment-là, quelque chose d'absolument incroyable qui va durer tout l'automne et depuis la fin de l'été. Et ce sont des centaines d'observations sur la France et sur les pays limitrophes, essentiellement l'Italie et la Belgique.
Ouais. Pour en prendre la mesure, on peut conseiller à nos auditeurs d'aller dans leurs archives départementales, consulter les journaux de septembre-octobre 1954. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc la presse locale de l'Eure-et-Loire, et j'ai été stupéfait de voir qu'effectivement, il y avait des cas, mais très fréquent, quoi, hein, mentionné par la presse, qui finalement, d'ailleurs, n'était pas si goguenarde que ça à l'époque. Enfin, j'ai pu constater qu'il y avait parfois des comptes rendus assez objectifs, hein, impersonnels.
Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, je conseillerais, il faudrait d'ailleurs que je le fasse aussi, vraiment, si on pouvait dépouiller le plus de journaux possible de l'époque, la presse, essentiellement la presse régionale, je pense qu'on arriverait encore là à découvrir beaucoup, beaucoup de nouveaux cas. Et ce serait intéressant. La presse, non, n'a pas toujours été goguenarde, effectivement. D'ailleurs, c'est pas systématique. Hein. Au début de ma thèse, je fais un petit inventaire de la presse, de ses réactions, des objectifs, etc., des rubriques consacrées aux ovnis. Et c'est assez partagé, hein, les journaux. Selon les journaux, selon les journalistes, on a différents tons qui sont employés. Et des fois, c'est très objectif, très neutre, très scientifique.
Oui. Alors, on imagine que cette vague d'apparition de 1954 a donné un coup de fouet à la recherche et favorisé la création de réseaux. Hein. Vous dites que rapidement, finalement, des groupes d'études se sont mis en place, et notamment autour de revues qui ont eu un rôle important dans la recherche privée jusque dans les années 80. Est-ce qu'on peut parler de ces premiers groupes, notamment, je pense, au GEPA, et puis à ces revues, hein, Phénomènes spatiaux, Lumière dans la nuit, etc.
Oui, alors en fait, véritablement, ça n'a pas donné un coup de fouet pour ce qui concerne l'ufologie privée, étonnamment. Étonnamment, c'est le cas. Par contre, l'armée aurait créé, hein, c'est quasi sûr, hein, Jimmy Dieu l'évoque, et Michel l'évoque aussi, aurait créé la CEMOC, à ce moment-là, la section d'études des mystérieux objets célestes, c'est-à-dire un bureau qui dépendait de l'état-major de l'armée de l'air et qui centralisait les informations. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations encore sur la CEMOC. J'espère qu'on pourra en avoir. Hein. Les archives, normalement, sont ouvertes là, depuis 2014, hein, si le délai de 60 ans a été respecté. Ce serait bien d'aller dépouiller en profondeur les archives de l'armée de l'air. Hein. Il faudrait s'y atteler. Moi, j'ai essayé de le faire, mais bon, quand j'ai fait les demandes, on m'a même pas répondu, donc j'ai pas pu le faire. Et voilà, donc l'ufologie... L'ufologie publique a été, disons, stimulée par ça. Il y a quelques questions qui ont été posées à l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement a créé, après cette initiative de créer cette CEMOC. Du point de vue de l'ufologie privée, donc les premiers groupes, si vous voulez, le premier groupe, en fait, apparaîtrait autour de 1949, à la fin des années 40, à Grenoble. Ça, je le dis dans mon ouvrage, hein, c'est le Sceau qui l'a mis en évidence, hein, sauvegarde, conservation, étude des archives ufologiques. Jimmy Guilleux l'avait aussi mentionné dans l'un de ses livres. Et ensuite, on a bien sûr la commission Uranos, qui est créée par Marc Tirouin et Eric Biddle, hein, un Anglais. Donc là, il y a une incertitude. Hein, et j'ai cherché tout l'azimut, j'ai interrogé des gens, notamment les responsables du Sceau. Et il est très compliqué d'arriver à une date exacte. Donc, la date communément admise, c'est 1951, mais certains, comme Henri Schoenbeck, parlent de 1953 et disent que c'est une erreur, 1951. En fait, la revue a été créée en 1951, mais pas le groupement. Bon, voilà, bref, on a une petite incertitude, hein, un débat de spécialistes, mais je pense que peut-être qu'on pourra dans l'avenir découvrir de nouveaux éléments qui permettront de trancher. Ensuite, on a la revue du Lundi dans la nuit, hein, qui est créée. Bon, il y a le courrier interplanétaire avec Alfred Nahon, et sa structure, hein, les amis du courrier interplanétaire qui se fédèrent autour de ce journal. Hein. On a Henri Chaloupec, on a Louis Murcaud, les époux Ebrecht, autour d'Alfred Nahon. La revue Lumière dans la nuit, donc avec Raymond Vélite, hein, qu'il a créé en 1957, et le groupement donc va apparaître à partir de ce moment-là. Donc le groupement au départ, hein, c'est... Raymond Vélite, aborde différents sujets dans sa revue. Hein, le groupement ne s'intéresse pas seulement qu'aux ovnis, enfin qu'aux soucoupes volantes à l'époque. Et c'est qu'avec l'arrivée de Fernand Lagarde, hein, un ingénieur retraité de la SNCF, que le groupement va se structurer, va fonctionner de manière un peu plus rigoureuse. et s'intéressait quasi exclusivement aux soucoupes volantes.
Ouais.
On a le GEPA qui est créé en 1962, donc ce sont les grosses structures de l'époque. Hein. Il n'y en a pas vraiment d'autres, et c'est surtout à la fin des années 1960 que là on commence à avoir une explosion du nombre des groupements. On a le GEOS de Gérard Lebas et bien d'autres. Et dans les années 70, là, on arrive à plusieurs centaines de groupements en comptant les cercles LDLN, Lumière dans la nuit. Et ça, d'après le son, on serait en tout et pour tout, hein, du début jusqu'à nos jours, on aurait eu 800 structures qui auraient été environ, qui auraient été créées avec des milliers d'adhérents. Donc, dans les années 70, une ufologie extrêmement dynamique.
Ouais. Alors, la revue Lumière dans la nuit, par exemple, le comptait, je vous ai lu en 1978, 2000 délégués et enquêteurs privés. C'est énorme et très au-dessus des moyens de la recherche officielle.
Ah, c'est considérable. C'est le groupement Lumière dans la nuit. Il faudra faire une étude du groupement Lumière dans la nuit parce que moi, j'ai pas eu le temps de m'y consacrer très longtemps. Mais c'est considérable. On a quelque chose, on a un phénomène qui se crée et on a une structure extrêmement diversifiée. Alors, c'est pas un groupement à proprement parler, hein. C'est plutôt des sympathisants et des cercles qui se fédèrent à cette revue, hein, qui sont fédérés par cette revue, hein, qui constituent leur dénominateur commun. Et il y en a qui sont extrêmement dynamiques, comme le CVLDLN, le cercle vosgien Lumière dans la nuit, hein, dans les Vosges, avec notamment Gilles Munch, François Diolès, son président par un moment, l'ingénieur François Diolès, et qui donc enquête et envoie tous leurs résultats, envoie leurs articles à la revue Lumière dans la nuit, qui a beaucoup de mal à traiter, qui a beaucoup de mois de retard pour traiter tout ce matériel. Voilà, mais ça constitue l'organe des différents acteurs de Lumière dans la nuit et surtout leurs publications qui vont discuter, qui vont commenter. Et donc on a un fonctionnement de type réseau avec LDLN qui met en place son propre réseau. Il y a des réseaux d'observateurs, il y a des réseaux de cibistes, il y a des réseaux de lecteurs, il y a des réseaux d'observateurs du ciel. Donc on a une structure évidemment qui a des moyens bien supérieurs à la recherche publique de l'époque qui n'existe quasiment pas, ou en tout cas qui est le fait de l'armée et qui a un fonctionnement très discret.
Ouais. Alors la recherche officiellement est née en 1977 avec la création du GEPAN, mais on s'intéressait un peu avant aux soucoupes volantes du côté du gouvernement. Bon, vous avez parlé notamment d'une structure au sein de l'armée de l'air, mais après, dans les années 60, 70, avant le GEPAN, il y avait quand même une forme, une ébauche de recherche officielle, pour ce que vous en savez.
Oui, alors donc tout ça, ce sera effectivement dans le volume 2, hein, qui paraîtra en septembre. Mais alors moi, de tous les indices qu'on peut récolter, parce que ce sont essentiellement des indices, on fonctionne essentiellement avec des indices, avec des témoignages, mais parfois des témoignages officiels, hein, donc ça c'est assez solide. Il y a toujours eu une veille, au minimum, hein, une veille de l'armée de l'air sur les phénomènes. Donc déjà, par exemple, je reprends le cas de Tananarive. À Tananarive, donc à l'époque, Madagascar est française. À Tananarive, il y a une enquête qui est ordonnée par le général Florquin de l'armée de l'air qui est confiée au directeur de l'observatoire de Tananarive, qui va interroger avec ses équipes, probablement, d'après les témoins de l'époque, 5000 personnes. Donc c'est considérable. Donc l'armée de l'air vraiment prend le problème à bras le corps. Elle crée la CEMOC. Et ensuite, par exemple, on a un témoignage, donc en 1974, donc là, dans les années 70, avant la création du GEPAN, Jean-Claude Bourret interroge le ministre des Armées de l'époque, Robert Gallet, et donc la discussion est un peu à bâton rompu, et Robert Gallet lui dit, oui, voilà, donc nous, l'armée de l'air, on collecte les témoignages et on les transmet au GEPAN, donc le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux de René Fouéré, hein, le fameux groupement qui a été créé en 1962, On les transmet au GEPA, et donc là, voilà. Donc l'armée collecte les rapports, les transmet, et on peut imaginer qu'évidemment, évidemment, il y a une contrepartie. Et moi, je pense, enfin, c'est mon point de vue, étant donné que le président du GEPA de l'époque, donc qui est une structure privée, hein, c'est un général, le général Chassin, étant donné que il y a de nombreux militaires, hein, parce que ça aussi, c'est un aspect important, il y a de nombreux militaires à la retraite ou en service actif au sein du GEPA, Moi, je pense, étant donné qu'il y a de nombreux ingénieurs, hein, le GIPAS, c'est un groupement assez spécifique, hein, il est constitué d'un bataillon d'ingénieurs. Moi, je pense que l'armée sous-traitait, si vous voulez, le problème, confiait ses données au GEPA qui faisait plancher son bataillon d'ingénieurs et qui donnait à l'armée ses résultats. Donc, elle faisait en tout temps de la rétro-ingénierie à peu de frais, hein, avec des bénévoles. Donc, moi, voilà ce qui s'est passé et ce qui indique que l'armée n'a jamais délaissé le problème.
Ouais. Alors, bien évidemment, la presse écrite, la télé, la radio se sont fait l'écho de ces récits d'observation d'objets étranges. Mais est-ce que le discours médiatique a évolué et comment a-t-il évolué depuis la fin des années 40 jusqu'à nos jours?
Alors, il semblerait qu'en 1954, donc bien qu'il y ait eu des discours assez objectifs dans la presse régionale et la presse nationale, le discours dominant, hein, d'après ce qu'on peut lire, hein, sous la plume de René Fouéré, sous celle de Joël Ménard, hein, qui était encore un peu jeune à l'époque, mais bon, c'est essentiellement ce que dit René Fouéré, le discours était assez critique, moqueur envers la question, et que les choses aient évolué. Dans les années 70, toujours d'après Fouéré et Ménard, le discours dominant était beaucoup plus objectif, apparemment. Et ça, c'est notamment dû à l'action de journalistes très connus, comme Georges Bourret, hein, qui avait des émissions sur France Inter. Donc on a là, plus d'objectivité, un peu plus de sérieux dans la considération du problème. Plus tard, bon, là, on a aussi un discours assez moqueur à la télévision. À la télévision, donc, là, c'est Robert Roussel qui le dit, hein, le journaliste Robert Roussel. Donc là, du fait du traitement spécifique par la télévision, on a là l'usage de raccourcis. Et donc, c'est souvent un ton assez moqueur, notamment pour se protéger d'éventuels canulars.
Nous reprendrons la semaine prochaine le cours de cet entretien passionnant avec Manuel Virotte, docteur en histoire contemporaine, diplômé de l'Université de Lyon et auteur de ce livre « OVNI sur la France des années 1940 à nos jours, apparition et chercheur privé ». C'est le premier tome d'une œuvre en deux tomes. C'est publié aux éditions Le Temps Présent, collection Enigma. Vous pouvez bien évidemment le commander à votre libraire. On se retrouve donc la semaine prochaine dans Les Témoins Invisibles pour la suite de cet entretien.
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been.